Frères et sœurs, je vous propose de poursuivre avec vous ce matin la lecture de la seconde lettre de Paul à Timothée. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions relire ensemble les versets 1 à 7 du chapitre 2. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est la troisième prédication sur la deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul était un apôtre qui a vécu dans la première et deuxième moitié du premier siècle, converti au Christ, lui qui était ennemi du Christ, réconcilié avec lui. Il a été appelé à rendre un ministère extraordinaire au service de la construction de l'Église, du corps de Christ. Et l'apôtre Paul a été plusieurs fois persécuté et il a été plusieurs fois arrêté. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, il est en prison à Rome, au tournant des années 66, après Jésus-Christ. Et il est isolé, séparé de ses collaborateurs. Et la semaine dernière, nous avons même vu qu'il s'est épanché en disant à Timothée que beaucoup lui ont tourné le dos. Donc la semaine dernière, nous avons un peu réfléchi à cette épreuve de la fraternité. Quand la fraternité est éprouvée, la Bible dit « un ami aime en tout temps, mais dans l'adversité, dans les moments difficiles, il se manifeste comme un frère ». Et nous avons vu que parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, dans l'épreuve, l'ami nous tourne le dos, le frère nous tourne le dos. Et nous avons réfléchi à cette réalité de l'ambivalence de notre humanité. Tantôt des relations fidèles, loyales, qui consolent, qui réconfortent, comme Onésiphore qui a cherché Paul jusqu'à le trouver et le réconforter. Et parfois, hélas, des situations qui séparent, qui nous mettent devant nos propres limites ou notre propre déloyauté. Et nous avons vu que ça fait mal, ça heurte, ça blesse. Et pourtant, l'apôtre Paul nous a aussi donné un chemin et un exemple de dépassement. Ce matin, il s'adresse à nouveau à Timothée, son fils spirituel, son bien-aimé fils Timothée, qu'il sent peut-être au bord de la rupture, et il va lui apporter quelques recommandations, quelques paroles de consolation et de réconfort. Donc j'ai intitulé cette prédication « Face au découragement et à l'épuisement ». Déjà fatigué après les vacances? Il faut travailler à son repos, il faut travailler à son ressourcement, c'est fatigant. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. De même, un athlète qui participe à une compétition ne gagne le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Dans ce second chapitre, l'apôtre Paul commence par exhorter Timothée à puiser ses forces ou à se fortifier. Nous avons reçu des pensées autour de ce verbe, se fortifier. Dans la grâce qui vient de Jésus-Christ, nous y reviendrons. Et il va appuyer, comme nous l'avons entendu, cette exhortation par trois métaphores, trois images qui mettent en exergue le fait que l'engagement, le don de soi, le goût de l'effort, la discipline, la persévérance, la patience dans l'épreuve, l'espérance aussi d'une victoire, d'un triomphe, d'une moisson, sont des vertus qui caractérisent celui, celle qui veut marcher en disciple de Jésus-Christ, comme elles caractérisent le soldat, l'athlète, le cultivateur. La semaine prochaine, nous aurons notre week-end de rentrée d'église et le thème et le fil conducteur de cette année, c'est « Fête des disciples ». Mais peut-être qu'avant de faire des disciples, la question c'est, suis-je disciple? Est-ce que je marche en disciple? Je ne vais pas développer cette question puisque nous avons invité un orateur qui a toutes ces problématiques à cœur et qui nous en parlera. Donc je fais ici une petite publicité pour vous dire, inscrivez-vous, il reste peu de place. Nous avons 125 personnes inscrites et 23 enfants d'après les dernières informations qui m'ont été communiquées par Magali. Tu confirmes, David? Donc déjà 148, 150, on pourrait dire, personnes sont inscrites pour ce week-end. Ça va être fort, midable. Premier point, j'aurai 7 points. Merci à la diapo de me suivre. Premier point, Timothée face à son découragement. Timothée, je dois le rappeler, était responsable d'église. Il était comme moi, pasteur. Mais ce n'est pas un texte qui parle qu'à ceux qui ont la responsabilité de pasteur. Ça parle de son rapport à son travail, à sa vocation. Donc ne te dis pas, oh, il veut parler de lui. Non, je ne parle pas de moi à la troisième personne, comme disait Alain Delon, de regretter mémoire. Je parle de Timothée. Et je parle de nous tous, notre rapport, nous tous, à ce que Dieu nous appelle à vivre. Notre rapport à notre travail. Dans la théologie protestante, qui a balayé cette distinction du religieux et du sacré, nous avons la conviction que tout travail honnête, utile à la société et à l'humanité, est un lieu de notre vocation. Donc il faut qu'on garde ça en tête. Et Timothée était dans sa vocation. Et sa vocation, c'était d'enseigner l'église d'Éphèse où Paul l'avait laissé comme responsable. Sa vocation était de faire le travail d'un berger, de prendre soin du troupeau. Sa vocation était de faire le travail d'un évangéliste, d'annoncer en temps et en contre-temps l'évangile. Sa vocation était d'être un enseignant, de transmettre le bon dépôt de la foi. Mais comme dans tout travail et dans toute vocation, Timothée a dû faire face à un certain nombre d'obstacles, de difficultés. Timothée était jeune et certains l'ont disqualifié d'avance à cause de sa jeunesse. Tant et si bien d'ailleurs que ça le trouble, c'est la raison sans doute pour laquelle dans 1 Timothée 4:12, l'apôtre Paul va lui dire « Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. » J'aime beaucoup ce passage, 1 Timothée 4:12. Mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Waouh ! Vous dites, quelle exigence, quelle attente. Timothée, est-il suffisant pour tout ça ? Être un berger, un enseignant, un évangéliste, comme si ça ne suffisait pas. Un modèle pour tous les croyants. Pas juste dans un domaine. En parole. En acte aussi, en foi, eh bien, en pureté, oula, etc. Nous avons tous des responsabilités qui nous sont soit confiées, soit celles que nous-mêmes nous nous sommes données. Et ça peut parfois être lourd. Et ces responsabilités même peuvent être écrasantes. Et c'est peut-être ce que Timothée vit. Comment faire ? Et en plus, il est de tempérament timide. Et l'apôtre Paul, au premier chapitre de 2 Timothée chapitre 1, lui a rappelé, mais ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Mais Moïse aussi était timide. Moïse aussi était bègue. Alors ça ne veut pas dire, je le précise, que quand on est timide, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. La timidité, voilà, peut être un ressort de notre personnalité qui ne veut rien dire sur notre rapport à Dieu. Paul met un peu de l'emphase, simplement pour le réveiller, pour le piquer un peu. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse que Dieu nous a donné. Il lui dit, mais ranime la flamme du don que tu as reçu. Parce qu'il sent peut-être sent-il Timothée au bord, justement, de la rupture, du découragement, et même peut-être de l'épuisement. Et en plus, Timothée est jugé comme quelqu'un qui n'a pas l'envergure. Vous savez, nous sommes tellement souvent attachés aux apparences. Vous allez dire, ah ça, ce pasteur-là, il a les épaules. Ah, hein. Oh, ce pasteur-là, il a de l'envergure. Ah, ce pasteur-là, voilà. Non. Je crois que si Timothée venait ici et qu'il prenait la parole tous les dimanches, les gens allaient commencer à me dire, pasteur Paul, oh, pff, qu'est-ce qui nous fait dormir ? Oui, on aime bien ce qu'il dit, mais alors, pff, Est-ce qu'il ne peut pas nous l'écrire, c'est plus simple? Est-ce qu'il ne peut pas s'enregistrer, c'est plus simple? Parce que là, pas de présence, pas d'anecdote, il est dans ses notes, oui, toutes sortes de choses comme ça, effectivement. Timothée était fragile, il n'avait pas l'envergure, il n'avait pas l'étoffe, il avait le cœur. Et puis il avait aussi l'estomac fragile. On dirait aujourd'hui que sous pression du stress, il avait des remontées peut-être acides. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, se joue un peu en médecin, je ne sais pas quelles étaient les recommandations à cette époque-là. Il lui dit, arrête de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin pour ton estomac. Je laisserai les médecins nous dire si c'est recommandé encore aujourd'hui. Vous voyez, l'apôtre Paul a dû lui transmettre un savoir de son temps. Moi, j'ajouterais avec beaucoup de modération. Le découragement de Timothée semble être une réalité. Et parfois, en tant que chrétien, on se représente les personnages dont nous parle la Bible comme des surhommes, des surfemmes. Et on n'arrive pas dès lors à nous identifier. On se dit, mais non, pas quand même. Et parfois, d'ailleurs, même on peut lire la Bible en ne comprenant pas à quel point est-ce que Timothée, là, est découragé. À quel point est-ce que Timothée, là, peut sombrer dans ce que j'appelais l'aquabonisme. Connaissez ça? C'est pas l'aquaculture, hein, ce n'est pas l'aquabike, hein. C'est l'aquabonisme, ça ne vous est jamais arrivé. À quoi bon? C'est un symptôme de notre temps. Hein. Les aquabonistes sont pris dans la spirale descendante du découragement. Qui n'a jamais dit à quoi bon continuer de se battre? Qui n'a jamais dit j'en ai marre? Ça suffit! Alors quand j'étais à la colo, il y avait un des animateurs qui avait son groupe. Et chaque fois qu'ils allaient en bivouac, ils marchaient. Et puis je l'aimais beaucoup parce que quand on allait les voir au bivouac, ils disaient « Je n'en peux plus !» Je n'en peux plus. Qui n'a jamais dit « Je n'en peux plus » Timothée est sur le point et peut-être Timothée a dit à Paul « Je n'en peux plus !» Ces chrétiens d'Éphèse me gonflent. Ils m'épuisent. J'ai beau me donner tout entier, mais je n'en peux plus. Et peut-être vous dites dans votre travail, je n'en peux plus. Mon M1 me fatigue. Mon manager me gonfle. Je n'en peux plus. Ce collègue râle tout le temps. Je n'en peux plus d'être pris en otage à côté de la machine à café, à me raconter sur le dos des autres ce qu'il pense. Mais comment lui dire que je n'en peux plus? Je n'en peux plus qu'en réunion d'équipe, chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a Pierre qui me rabat le cacois. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus que chaque fois que Martine prend la parole, alors toute proportion gardée hein, avec les Martines de l'église. Hein. Parce que là, et Pierre aussi, c'est pareil. Hein. Voilà, parce que là, je prends des prénoms qui me viennent comme ça, loin de mes notes, et après, je vais me faire remonter en disant, le pasteur règle ses comptes sur la chair. Non. Je n'en peux plus que quand c'est Martine qui prend la parole, on trouve que tout ce qu'elle dit est formidable, mais dès que moi je la place, je suis, allez, disqualifié. Je n'en peux plus, je vais abandonner ça. Ça arrive, ça. Ça arrive, ça. C'est la réalité, c'est la vie. Et Timothée l'a vécu d'une certaine manière à Éphèse. Et le découragement nous entraîne dans le défaitisme, et quelqu'un a dit ceci. J'ai lu un article qui en parlait. Enfin, s'il vous plaît. J'ai quitté mes notes, donc je... Si l'on cherche une définition simple et générale du découragement, on dira qu'il consiste en une attitude de défaitisme, une tentation d'abandon à la suite d'un échec ou d'une succession d'échecs. Le découragement peut nous conduire à un sentiment d'échec total et de défaitisme. Le découragement, slide suivante également, peut nous conduire à intégrer un certain nombre d'aspects de dire « je suis nul ». Et vous pensez peut-être que ça n'arrive qu'aux gens qui seraient paresseux ou des glandeurs, que sais-je encore, ou des fainéants. Non. Le découragement peut même mener à l'épuisement, qu'on appelle aujourd'hui le « burn-out », un sujet ô combien d'actualité. Et pour vous dire juste à quel point la Bible connaît cette réalité, voici l'exemple d'un grand homme. Élie, très charismatique prophète, celui qui par sa seule parole a fermé le ciel. Il a dit au roi Achab, il ne pleuvra pas. Si je suis servant du Seigneur, je te le dis, point de pluie pendant 3 ans. Celui qui a eu l'audace de courir devant le char du roi pour l'interpeller. Celui qui a réuni une assemblée de prêtres de Baal, il y en avait plus de 400. Il leur a lancé un défi spirituel en disant, d'accord, vous croyez que ce sont les Baals, les divinités païennes, qui sont des vrais dieux. Alors on va se tenir devant le peuple. On va chacun construire un autel. Il y aura là une démonstration de puissance. Et on verra l'autel de qui ? Duquel de vous ou de moi sera visité par le Seigneur. Et Dieu est descendu comme un feu et il a consumé le sacrifice d'Élie. Et il a fait passer au fil de l'épée les 400 faux prophètes de Baal. Timothée était confronté également aux faux prophètes, aux faux enseignants. Et Élie qui a vécu tout ça, qui va prier et l'eau va revenir, eh bien vous savez quoi ? Une femme, et ça ne dit rien. Maintenant quand tu dis une femme, quand tu as parlé d'un homme, il faut t'excuser de ne pas être sexiste. Alors, une femme nommée Jézabel, qui était courtisane du roi, elle n'avait même pas encore les pleins pouvoirs. Il a suffi qu'elle dise, allez dire à Élie, que j'ai mis sa tête à prix, ou en tête. Quack. Et là a commencé un grand découragement d'Élie. Élie a commencé à fuir. Il a fui, il s'est retrouvé dans ce désert où il marchait, et puis il s'est retrouvé sous un genêt, un arbre. Et là, il a dit, assez. J'ai mis un peu en hébreu là pour que vous vous rendez compte. Un seul son, rav. Rab, assez, assez, je n'en peux plus, prends ma vie. Il avait le rab de son découragement. Vous savez quand on dit du rab, c'est qu'il y en a encore. Mais pour Élie, c'était assez, ça suffit. Plus de rab, je suis fatigué, je n'en peux plus. Et tellement découragé, que maintenant il est complètement épuisé, ses forces vitales l'abandonnent. Et curieusement, vous savez, quand vous êtes aspiré dans ce cycle de dépression ou de déprime, pardon de citer ici Freud qui a parlé de ça en parlant de pulsion de vie, pulsion de mort. Quel que soit ce que vous en pensez, l'idée est de dire que se joue là quelque chose de paradoxal. Votre pulsion de vie, votre élan vital semble vous abandonner et vous êtes travaillé par une sorte d'élan de mort, d'abandon. Et d'ailleurs, vous êtes tellement fatigué que le goût de vivre, vous ne l'avez presque plus. Le goût de se lever, le goût de manger. Et ça ne touche pas que des non-chrétiens ou que sais-je encore, ou que des petites personnes, des gens de faible gabarit au sens de faible tempérament. Non, regardez Élie, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et Élie tombe devant le Seigneur, il dit « Assez ». Il est important de comprendre les facteurs qui peuvent conduire du découragement au burn-out, à l'épuisement psychique, physique, même spirituel. Vous pouvez prendre la référence de cet auteur qui est médecin, philosophe, prêtre, mais que j'aime beaucoup, il s'appelle Pascal Hyde, parce qu'il a une réelle compétence, une réelle réflexion sur ces questions. Il a écrit un livre, « Le burn-out, une maladie du don ». Dans ce livre, il analyse, y compris avec le regard spirituel, ces questions de l'épuisement qui travaille notre société. Et Timothée est ici dans un épuisement ou dans un découragement à minima. Il nous dit qu'il y a plusieurs facteurs. Et c'est bien, et je ne veux pas faire ici un cours magistère, mais de temps en temps, c'est bien dans nos églises que nous puissions nous saisir de l'apport de ce que la science et les sciences objectives ou humaines nous apportent pour repérer certains mécanismes, comprendre pour prévenir. C'est juste dans cet état d'esprit que je le fais, ce n'est pas pour faire le sachant. Pascal Hyde nous dit que c'est souvent lié, que ça touche souvent, et nous le savons de mieux en mieux, les personnes hyper engagées, les personnes hyper sensibles au bien-être des autres, les soignants, les aidants, les gens qui ont un grand sens des autres, les altruistes, des gens qui se mettent au service. Et dans la semaine, pendant que je préparais cette prédication, j'écoutais dans ma voiture une émission, j'aime beaucoup France Culture, ça me cultive, qui disait que les élus, nos maires, nos magistrats, d'autres personnes qui portent la vie des communautés localement, sont en début d'épuisement, un maire sur deux, en début d'épuisement. On savait que certains sont déjà épuisés. Vous voyez, c'est des gens qui donnent de leur temps, leurs compétences, de leur cœur pour l'intérêt collectif. C'est des professeurs, c'est des soignants, c'est des parents. Ce n'est pas les paresseux, forcément. Ce n'est pas des faibles, c'est des altruistes et parfois idéalistes aussi. Et ce surcharge de travail excessif, sans possibilité de récupération parfois, peut être un piège. La deuxième chose, c'est le manque de reconnaissance, ne pas se sentir valorisé ou reconnu. C'est vrai que quand on considère comment aujourd'hui sont traités tous ceux qui incarnent l'autorité dans notre pays, par exemple, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de prendre des responsabilités. Ça ne donne pas envie d'être gardien de la paix. Ça ne donne pas envie de s'engager en l'armée. Paul nous parle de soldats. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de s'engager au service de l'intérêt collectif comme maire, comme élu. Ça ne donne pas envie de s'impliquer dans une association aidante au quartier. Quand vous voyez comment vous êtes remercié, insulté parfois, défié, ça ne donne pas envie. Manque de reconnaissance, pression constante, le stress, c'est de pressuriser, des objectifs à atteindre, toujours plus. Absence de contrôle, vous avez l'impression que vous n'avez même pas la main sur ce que vous faites. Il m'arrive d'être confronté à un dysfonctionnement en tant qu'usager du service public. Et la personne qui me reçoit, je sais très bien qu'elle n'est pas responsable de ce dysfonctionnement. On lui a donné une procédure, un protocole à appliquer simplement. Pardon, sans méchanceté, je dirais bêtement. On lui dit, c'est ça ton travail. Et parfois, nos protocoles, nos structures dysfonctionnent. Mais c'est toi la première ligne d'assumer. Il m'est arrivé de faire mes courses et d'avoir pris un produit en disant, tiens, oui, je prends ce produit-là. Il avait un code barre. Et bon, je passe à la caisse libre-service, je scanne, tous les produits passent et celui-là ne passe pas. Et la jeune dame qui est là pour vérifier qu'on ne parte pas sans tout payer ses produits se rend compte qu'il ne passe pas. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai plus le temps. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs pris cette caisse. Je pars, laissez-le de côté. Ah, mais non, monsieur, c'est du frais, je ne peux pas le laisser ici. Il faudra le ramener en rayon. Je dis, madame, je sais que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas la mienne non plus. J'en suis désolé. Mais moi, je pars repartir au fond du magasin, le redéposer. Alors, monsieur, vous ne pouvez pas. Mais je dis, j'ai payé. J'ai tout payé. Je vais partir. Sécurité. Alors, oui, vraiment. Oui, si. Mais moi, je ne me suis pas dégonflé, les amis. Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'étais aussi agent de sécurité. Alors, sécurité, ouais. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, je vous respecte, je ne veux pas vous embêter. J'avais eu un mot beaucoup moins élégant. Mais de vous à moi, je sais que vous n'y êtes pour rien. Mais moi aussi, j'y suis pour rien. Et vous avez votre téléphone, vous n'avez qu'à dire à la personne de la poissonnerie de bien mettre son rayonnage. Et puis, de toutes les façons, moi, je suis venu payer, je ne vais pas retourner. Donc, soit on se perd du temps, on appelle la gendarmerie, et même la gendarmerie ne me fera pas aller le redéposer. Là, c'est mon côté parfois rebelle et têtu. Il faut de l'énergie parfois pour vivre dans ce monde. Et j'ai pu constater que finalement, cette personne a dû, parce que vous vous demandez comment ça s'est terminé cette affaire, eh bien, ça s'est terminé que cette personne a compris que je n'étais vraiment pas disposé à repartir reposer à ce truc au rayon de frais. Et on dit, ok, monsieur, je comprends, écoutez, bon après-midi. Je dis, moi, je suis encore désolé, je sais que ce n'est pas vous, ça vous embête, mais voilà, rébellez-vous un peu. le stress, l'absence de contrôle, vous avez le sentiment que rien, voilà, tout vous échappe. Le conflit des valeurs aussi, nous dit Pascal Hyde, et ça c'est vrai, vous dites, mais quel est le sens de ce que je fais? Ou alors tout simplement, ce pourquoi vous avez été recruté, ce pourquoi vous avez dit oui, le sens que vous y mettiez, eh bien, ne correspond pas aux valeurs que vous avez trouvées en réalité. La philosophie qui vous anime vous met en porte-à-faux, vous sentez mal. Et quand ça dure, quand ça tire, etc., ça peut casser. Vous allez dans un EHPAD, vous discutez avec une aide-soignante et vous dites, mais j'en peux plus. J'ai 2 minutes pour changer la couche, j'ai 7 minutes pour préparer ceci. Elle dit, j'en peux plus. Moi, j'ai fait ça parce que j'aime les personnes âgées. J'ai fait ça parce que je voulais les soigner, je voulais discuter avec elles, je voulais. Mais là, tout est cadencé, je n'en peux plus. Et des scandales éclatent dans notre société. Les familles ne comprennent pas, avec tant d'argent que nous payons pour nos aînés, c'est comme ça qu'ils sont traités. Voyez. Et c'est certain que les gens qui ont une haute considération de leur travail, une haute considération des valeurs de l'humanité, du respect, de la bienveillance, du soin, vont se sentir à un moment donné tellement en souffrance dans leur travail, dans leur vocation. Et puis, il y a aussi l'isolement. Nous sommes une société où nous avons la difficulté à construire de véritables relations, des véritables relations soutenantes, à construire du commun. Et parfois, dans l'isolement, nous pensons que nous sommes seuls à souffrir, nous pensons que nous sommes seuls à être confrontés au découragement. Alors, bien entendu, les institutions s'en rendent bien compte. Je ne sais pas, on parle même dans le corps pastoral de groupes d'analyse de la pratique, de groupes de parole, de groupes de soutien, etc. Et bien, il faut être humble pour oser aller dans ces groupes ressources qui visent à rompre l'isolement de la souffrance mentale au travail et de pouvoir mettre un lieu commun où la parole peut se dire, peut se disposer. Nous avons commencé une réflexion dans cette église par rapport à ça, et j'espère que le moment venu, on pourra vous la présenter et que cela aboutira. Pascal Hyde considère que l'épuisement est une maladie du don. Il le dit, et voici ce qu'il en dit rapidement, avant de revenir à notre texte. Attention, c'est la rentrée. La vie de l'Église va repartir sur des chapeaux de roue. Attention, attention à l'excès de don de soi. Il nous dit que le burn-out est le résultat d'un excès de don de soi. Les personnes concernées se consacrent tellement aux autres ou à leur travail qu'elles en viennent à s'oublier elles-mêmes. Ce n'est pas le peu de don, c'est l'excès du don de soi. Vous avez dit que c'est un déséquilibre dans le don. Et il y a souvent aussi un manque de réciprocité. Ce qu'il veut dire par là, c'est que non seulement elles sont dans le don d'elles-mêmes, mais ont du mal à recevoir, ne reçoivent pas, ne se ressourcent pas, n'accueillent pas. Et troisième moment, ce que je venais de dire, il peut y avoir un problème de la perte du sens et de la motivation, y compris dans nos églises. On peut perdre le sens et la motivation. Mais pourquoi depuis 10 ans je suis aux enfants? Pourquoi je loupe un culte sur deux? Pourquoi je suis à la sono? Si ce n'est que pour faire tourner le culte, j'en ai marre. Pourquoi je suis à la louange? Quel est le sens de ça? Oh, pourquoi nous sommes là? C'est que le dimanche, qu'est-ce qu'on veut vivre? Quel est le sens de ça? Oh, je suis plus motivé. Hein. De toutes les façons, l'église, avec ou sans moi, ça tourne. Hein. Yaka. À quoi bon? Perte du sens. Perte de la motivation. C'est la raison pour laquelle nous avons recommencé à réfléchir à mais quelle est notre vision? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui nous motive? Parce que c'est important pour mon travail. Enfin, chacun pour son travail, pour le temps qu'on met, pour l'énergie mise, pour les moyens mis, de savoir pourquoi on va où. Il y a également, il nous dit, une perte de l'importance de soi-même et du soin de soi-même. Et c'est vrai, j'ai lu le témoignage d'un médecin qui disait que les personnes soignantes sont très récalcitrantes à être elles-mêmes soignées. Les personnes qui prennent soin des autres, pasteurs inclus, sont très réfractaires à ce qu'on prenne soin d'eux. Une des bénédictions que j'ai reçues en tant que étudiant de la Fédération Baptiste et agréé, c'est qu'on nous donnait un référent. à qui on pouvait parler. Et devenu pasteur, nous avons été encouragés à trouver un autre pasteur qui acceptait d'être notre écoutant. J'étais tellement heureux d'être au bénéfice toutes les années de mon pastorat, d'avoir un autre pasteur à qui je demande de me rendre ce service. Et j'en ai rendu à d'autres. Est-ce que tu acceptes de prier pour moi? Est-ce que tu acceptes de m'écouter? Pas forcément de me donner toutes les réponses, mais de m'écouter. Est-ce que tu acceptes d'être dérangé pour ça? Est-ce que je peux te partager mes peurs profondes, mes blessures? Est-ce que je peux te partager mon cœur? Est-ce que tu acceptes de me rendre ce service, cher collègue? Tu connaîtras mes faiblesses, tu verras mes larmes, mais est-ce que tu acceptes de prier pour moi, tout simplement? En ce moment, vous vous demandez bien, est-ce qu'il a quelqu'un comme ça? Non, c'est un sujet de prière que je vous confie. Il faut être humble et nous avons besoin des autres. Alors revenons à Timothée. Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. C'est que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins. Confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Il faut que j'aille vite. J'aimerais m'arrêter sur deux considérations, sur deux affirmations. Premièrement, je voudrais vous dire et nous dire, frères et sœurs, qu'il faut avoir reçu pour donner. Quand j'entends, quand je me mets à l'écoute de ce que Paul est en train de dire à Timothée, il va d'abord insister en disant, mais ne cherche pas, tu as reçu. Mais maintenant, tu dois apprendre à donner. Mais on ne peut bien donner que ce qu'on a bien reçu. Et on ne peut bien se donner que si l'on a été bien reçu. Il est important d'apprendre à recevoir. Timothée a reçu. Et l'apprentissage à recevoir ne commence pas à l'école. Pour Timothée, en tout cas, ça a commencé dans la famille. L'apôtre Paul, au chapitre 1, lui dit, « Je me souviens avec reconnaissance de la foi. » Là, il s'agissait de recevoir le dépôt de la foi transmise, la foi objective. Je me souviens, tu l'as reçu par ta mère, Eunice. Et cette foi et ce dépôt étaient déjà en ta grand-mère, Loïs. Ça me donne l'occasion de nous dire que même si l'Église met en place l'enseignement des enfants, l'éveil, l'atelier du maître, horizon pour les jeunes, etc., etc., ça ne peut pas être un désengagement des parents. Qu'on soit mère seule avec ses enfants, c'est difficile. Qu'on soit à deux, qu'on soit père seul, qu'on soit une famille avec père, mère, vivant tous sous le même toit, le dépôt spirituel ne peut pas être quelque chose qu'on sous-traite uniquement à une église locale. Ça peut être quelque chose qu'on sous-traite à une application simplement comme ça, à une vidéo. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu as reçu aussi d'abord de tes parents. Je ne sais pas qu'est-ce qui était devenu le père de Timothée, Paul n'en parle jamais. Il dit, tu as reçu ça de ta mère. Peut-être elle était déjà seule, veuve peut-être. Et de ta grand-mère. Quelle bénédiction! Mais Timothée a reçu aussi, aux côtés de l'apôtre Paul. Il a prié avec lui. Et dans cette année qui vient, on va réfléchir à toutes ces questions. Qui est mon Timothée? Ou alors, plus précisément, de qui suis-je le Timothée? De qui? Est-ce que j'ai cette démarche, ce cœur humble? Moi aussi, je cherche à être Timothée de quelqu'un. Alors bien sûr, on est très spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas incompatible. Timothée était disciple du Christ, mais il était aussi disciple de Paul, l'apôtre. Et moi, comment apprendre des autres? Comment recevoir des autres? C'est une réflexion que je lance comme ça rapidement. Timothée était fragile. C'est l'importance de savoir accueillir ses limites. Dans nos églises où nous valorisons l'engagement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous valorisons l'engagement, c'est vrai. Nous sommes fiers de dire, oh, il y a 80 personnes dans les équipes de service, c'est vrai. Mais cela ne doit jamais être au détriment d'aider chacun à être conscient de ses propres limites. Parce que certains ne sauront pas dire non. Parce que toute leur vie, elles ont été éduquées qu'être un bon chrétien, c'est dire oui. Alors on va cumuler des casquettes qui vont s'empiler Et on ne va pas avoir le courage de dire « Non, je ne prends pas cette casquette-là. Non, je ne prends pas ce manteau-là. Non, il est bon que je ne prenne pas ce service-là. » En fait, ça va d'un problème de connaissance de soi et de connaissance précisément de ses limites. L'une des choses qu'on vous apprend quand vous êtes professionnel, par exemple, dans le soin ou dans l'écoute des autres, c'est l'illusion de la toute-puissance. Un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est de penser qu'on a toutes les ressources, qu'on peut tout réparer, qu'on peut tout faire fonctionner, qu'on est indispensable. En réalité, on a des limites. Alors, je sais qu'on dit souvent qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort, à condition de ne pas confondre la zone de confort et les véritables limites structurelles de la personnalité et de la personne de l'autre. Parce que c'est dangereux. Et parce que je crois que Dieu n'est pas un facteur de danger pour nous. Alors l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée de sortir de ses limites, mais de connaître ses limites et de les accueillir en étant paisible. Ce que tu peux faire, par la grâce de Dieu, ce que Dieu t'a rendu capable de faire et de faire bien, fais-le. Ce que tu ne sais pas faire, eh bien tu n'es pas seul. Et Élie devait l'apprendre. Je suis seul, je n'ai pas fléchi les genoux, je suis resté le seul. Et l'ange lui dit non, Élie. Mange, lève-toi, mange, la route est longue. Et puis marche, je vais t'amener dans un endroit où tu vas comprendre. Et il a marché 40 jours, 40 nuits. Il avait pris des forces nouvelles. Il a reçu une nourriture qui l'a remis en marche. Et il est allé devant le Seigneur en Horeb, au mont Horeb. Et là, le Seigneur est venu et le Seigneur lui a parlé. Et l'une des choses que le Seigneur lui a dites, c'est que le Seigneur lui a dit, tu vois Élie, tu n'es pas seul. Je me suis réservé encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou. Toi, tu ne les as pas vus, moi je les vois. Cela doit nous parler à tous, responsables, tant l'Église ou ailleurs. Est-ce que nous voyons ce que Dieu a déjà placé à côté de nous et qui, eux aussi, sont capables de recevoir et de donner. Apprendre à recevoir et apprendre à donner. J'ai mis aussi savoir se donner. Timothée doit reconnaître qu'il n'est pas seul à avoir le fardeau de l'Église. Timothée doit reconnaître qu'il n'est pas seul à avoir tous les talents, toutes les qualités. L'apôtre Paul dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres. Donc il y a une responsabilité pour chacun qui a un service, une responsabilité de se poser la question, si je ne suis pas là, est-ce que ça se poursuit ou pas? Si la réponse est non, eh bien c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Le succès sans successeur n'est pas un succès. Chacun de nous doit se poser à sa place cette question. Est-ce que dans mon service, dans la façon d'occuper ce service, est-ce que je me suis rendu indispensable à ce point que si je ne suis pas là, personne ne sait comment ça fonctionne? Et si c'est le cas, c'est un dysfonctionnement. Alors il faut se préparer à commencer à demander, Seigneur, montre-moi. Mais ce discernement, ce n'est pas un discernement d'appel au peuple comme ça. C'est un discernement exigeant puisque l'apôtre Paul ne dit pas simplement ce que je t'ai enseigné, confie-le. Cette délégation n'est pas un bon débarras. Confie-le à des gens fidèles. Discerne les cœurs, discerne la loyauté, la fidélité. L'apôtre Paul n'est pas non plus en train de dire que nous devons boucher les trous à tout prix. Comme si dans l'Église on ne pouvait plus parler de compétences, de qualité, de capacité. Eh bien, il dit non, confie-le à des gens fidèles, capables. Capable. Je suis souvent étonné. Dans notre église et dans les églises où j'ai été comme pasteur, j'ai eu des gens qui avaient des responsabilités à un haut niveau dans la société. Des magistrats, des avocats, des ingénieurs chez Schneider, chez HP, chez Air Liquide, des docteurs d'enseignement, des professeurs d'école, des chefs de service, etc. Des hauts niveaux, même gardien d'un supermarché, etc. Et je me suis souvenu, mais comment, avec autant de compétences, nous n'arrivons pas à faire avancer l'Église, le projet de l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens deviennent cons, excusez-moi, une fois qu'ils franchissent le seuil d'une Église? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'arrive plus à mobiliser les compétences qui sont donnés au monde pour faire prospérer les activités professionnelles humaines et pas pour l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on rate? Nous devons apprendre à valoriser les dons et les compétences. Il s'agit d'accompagner chacun à trouver sa place dans le corps en fonction des dons reçus. Je ne vais pas te demander de changer une prise électrique si tu n'es pas électricien ou si tu n'as pas cette compétence. Je te mets en danger et je suis irresponsable. Dans tout ce qu'on va vivre dans les mois qui viennent, on va reparler du bâtiment, de la construction, etc. Je lance ici solennellement la parole aux personnes qui ont des compétences dans ces domaines. Nous avons besoin de discerner ensemble. Tu es manager, tu sais accompagner des équipes, mais qu'est-ce que tu fais dans l'Église alors? Comment accompagner les autres? Bien sûr, le risque c'est de croire que l'Église est une entreprise, mais non, l'Église n'est pas une entreprise. Mais il n'y a pas une rupture totale entre ce que je vis le reste de la semaine et la façon dont je mets ces dons et l'Église. Il y a à trouver le bon équilibre, apprendre à donner, apprendre à recevoir, apprendre à transmettre. Il faut trouver d'autres capables. Et notre prière, c'est d'élargir le cercle des responsabilités. Et enfin, je conclus, il ne faut pas perdre le sens de ce pourquoi nous nous engageons. Nous devons garder le sens. Et notre société est une société aujourd'hui où beaucoup de générations sont très portées sur le sens de leur engagement. Les églises ne comprennent pas la génération Z, ne comprennent pas les jeunes générations. Ce qui les intéresse, ils sont prêts à renoncer à un travail, payer trois fois plus, mais à vivre une vie qui fait sens pour eux. Ils sont prêts à partir loin de leurs parents, par choix, plutôt qu'à rester dans un déterminisme social. Ils sont prêts à changer plusieurs fois de travail, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un travail où ils seront alignés avec leurs valeurs. Et l'Église ne comprend pas beaucoup ça. Il y a là véritablement un lieu de réflexion. Comment faire Église avec toutes les générations? Ceux qui ont été éduqués dans la permanence. On commence et ça dure 30 ans. Le même service, la même place dans l'Église. Et ceux qui, non, vont refuser parce qu'ils ne veulent pas être assignés à ça. Ils vont avoir besoin de faire des missions tous les 6 mois, tous les 1 an. Comment dealer avec ça? Ce n'est pas facile. Mais ce qui importe, et ce qui me semble que les études de sciences humaines nous disent, c'est une quête, une construction du sens. Gardons le sens. Pourquoi l'Église? Pourquoi je veux m'engager dans ce service? Pourquoi je veux faire cet effort? Et l'apôtre Paul prend ici des exemples engageants. Le soldat, mais il donne l'engagement de soi et il est prêt au don de sa vie pour le commandant. Mais au-delà, pour la nation. Quand je vais chez moi à Bouillac, je passe une rue qui est baptisée la rue du colonel Arnaud Beltrame. Cet homme a donné sa vie pour protéger une pauvre dame un jour au supermarché. Vous marchez, vous avez une rue Samuel Paty, un autre enseignant qui a donné sa vie, d'une certaine façon, pour un idéal de liberté dans l'enseignement. Quel est le sens de ma vie? Comment je me donne et pourquoi je me donne? Un athlète, il fait des efforts et on le voit, même les Jeux paralympiques, là, on voit les efforts incroyables. Il persévère. Mais pourquoi? Une médaille? Pour une récompense? Pour une reconnaissance? Pourquoi? Et moi aussi, suis-je prêt à faire des efforts? Mais pourquoi je vais donner mon temps à l'Église? Pourquoi je vais donner mes compétences, mes connaissances à l'Église? Pourquoi je vais y mettre mon argent, etc.? Le cultivateur aussi, pareillement, il travaille comme nous l'avons chanté. Ceux qui labourent, ceux qui peinent avec larmes, moissonneront avec des chants à l'Église. Don de soi, discipline, mais également espérance de pouvoir récolter. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière slide. Mets-toi, demeure ferme dans ce que tu as appris, demeure ferme, fidèle aussi dans ce que tu as reçu. Parce que tu sais de quel maître tu l'as appris. C'est important d'avoir des modèles, d'avoir des repères. Tu sais. Mais plus que tout, il lui dit, tu connais les Saintes Écritures depuis ton enfance. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Amen.